Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le chemin de Fibre Tigre. Alors, c'est pas son prénom, hein, c'est un pseudo, personne ne sait quel est le prénom de Fibre Tigre. Vous allez l'entendre, le parcours de Fibre Tigre est très éclectique et ses expériences diverses et variées ont un seul dominateur commun, raconter des histoires. Dans cette interview, qu'on a réalisée en deux parties à plusieurs mois d'écart, on parle de l'industrie du jeu vidéo dans laquelle il a beaucoup travaillé, de sa situation de freelance et des conséquences de l'absence de CDI dans sa vie. On parle aussi de télétravail, mais ça bien avant le confinement. Et enfin, dans la deuxième partie du podcast, on revient sur ce fantastique crowdfunding qu'ils ont réalisé avec Game of Thrones, où ils ont explosé tous les records d'Ulule avec plus de 100 000 euros récoltés en l'espace de 24 heures. Alors cette interview est très dense, on parle de plein de choses. Un immense merci à Fibre pour sa confiance. Si vous aimez Histoire de succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site www.histoireavecunsdesucces.com. Ça vous prendra deux petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast préféré pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Fibre Tigre. Salut Fibre.
Bonjour Fabrice.
Ça va?
Ouais. Ça va bien.
Merci beaucoup de venir.
De rien, je suis très content déjà de te revoir. Et non, on sait pas. En fait, on se croise beaucoup, on se parle de temps en temps, on s'échange quelques mots sur la méditation, par exemple. et là, on a même collaboré, on a fait des projets ensemble.
Ouais.
Voilà. Et puis, on n'a jamais eu le temps de se poser, de se parler.
Bah là, c'est surtout toi qui vas me parler.
J'espère.
Enfin, j'espère aussi. Sinon, ça va être long comme podcast. Merci de venir dans ce podcast pour raconter un petit peu ton parcours. Et donc, moi, je te suis depuis longtemps, en fait, avant même de te rencontrer en vrai. Je connaissais Fibre Tigre sur Twitter depuis longtemps parce que c'était vraiment, en tout cas, je sais pas si ça l'est toujours parce que j'ai un peu quitté Twitter, moi, mais c'était vraiment ton game à un moment donné, Twitter, où t'étais énormément dessus et tu.
J'essaye d'être encore un peu dessus. C'est un outil très pratique de networking quand on est tout seul. C'est-à-dire que, effectivement, enfin, c'est un peu comme, tu imagines un conseiller, un consultant en communication qui vient te voir, tu regardes son compte Twitter, il a 300 abonnés, tu vas dire, bon, en communication, vous n'êtes pas si bon, tu vois. Et moi, je peux dire, vous avez vu, en tout cas, quand j'écris, ça intéresse des gens. Voilà.
T'as combien? T'as 40 000?
Ouais, un peu plus de 40 000, ouais.
40 000.
Ouais.
La classe. Et en fait, Je suis retombé sur cette fameuse page qui est un peu ta page d'accueil sur Internet et j'ai commencé à regarder un petit peu parce que c'est vrai qu'à une période j'avais regardé un petit peu tout ce que tu faisais et c'est tellement fouillé et t'as tellement de choses et c'est tellement riche parce que tu gardes toutes tes archives de
ouais,
tous tes trucs.
Alors malheureusement j'espère que t'as pas tout basé là-dessus parce que
non,
je mets plus trop
tout.
Ça à jour.
Ouais.
Mais en fait j'essaie de, mon cœur de métier c'est raconter des histoires.
Okay.
Et dans notre monde moderne, ça peut prendre plusieurs formes. Déjà, c'est un métier qui n'est pas anodin parce que beaucoup de gens consomment des séries télé, par exemple. Et du coup, ça peut prendre de multiples formes. Déjà, parce que quand on a une bonne histoire, elle n'est pas forcément bonne en livre. Et ensuite, parce qu'il y a beaucoup de besoins dans des domaines assez étranges. Je vais citer un domaine hyper étrange, c'est qu'en ce moment, je suis consultant pour créer une histoire en réalité augmentée pour un musée, par exemple.
Okay.
Un musée des maths, en plus. Donc, c'est vraiment très particulier. Et donc, là encore, il y a une technicité un peu particulière. En gros, quand on regarde effectivement cette page où je dis un petit peu ce que je fais, il y a un peu de tout. Mais le dénominateur commun, c'est les histoires.
C'est les histoires. Voilà. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur qui était Fibre. Quand tu avais 7-8 ans.
Oh là là, j'étais un bon élève très introverti, qui avait pas forcément beaucoup de copains, mais qui lisait. Voilà, je lisais beaucoup, 5 livres par semaine. Malheureusement, je suis assez vieux, donc j'ai 40 ans. Donc
c'est pas grave, ça arrive. Hein.
Ouais, mais en fait, le problème, enfin, les gens de la rédaction de Mademoiselle, ils ont cette chance formidable que quand ils avaient 8 ans, ils avaient Harry Potter. Mmh. Tandis que les gens de mon âge, quand ils avaient 8 ans, bah, ils avaient La Bibliothèque Verte, qui était bien, mais c'est des livres qui étaient écrits dans les années 50. On pourrait dire d'ailleurs limite sexiste, tu vois, ça.
Oui, le club des 5 et tout, c'était.
Voilà, donc.
C'était chaud.
Enfin, n'oubliez pas, quand vous parlez à un vieux de 40 ans qui a des propos pas très woke, que lui, malheureusement, quand il était petit, ben, il lisait des bouquins qui étaient écrits dans les années 50, qui étaient pas. Voilà, ce qu'il a forgé, c'était un peu compliqué. Et voilà, donc je lisais et ça a forgé une partie de mon imaginaire. Après, comme j'étais un bon élève. Dans le cursus français, je sais pas si ça a changé, mais en gros, quand t'es un peu bon en tout, tu fais des maths et tu fais école d'ingénieur. Je suis rentré dans une école de bâtiment, tu vois, ingénieur bâtiment, mais ça m'empêchait pas d'écrire pour le plaisir sur les côtés. Mais c'était une époque où il y avait pas encore internet, c'est-à-dire si j'écrivais des fanfics, ben je les mettais sur une feuille chez moi et personne les lisait jamais. Voilà.
T'avais monté. Oui, justement, tu faisais des fanfictions, t'avais des carnets, des trucs, des.
Ouais, enfin, j'avais des fichiers Word, on va dire.
Ah oui. C'est vrai que t'as quand même eu Internet. Enfin, t'as quand même eu un ordinateur.
Ouais, j'ai eu un ordinateur, ouais. j'ai joué aux jeux vidéo, c'est jeune. Mais après, c'était compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a eu un avant et après Harry Potter dans l'édition, enfin, française, parce que je vais pas écrire en anglais. Et avant Harry Potter. Écrire de la littérature fantastique jeunesse de genre, de la science-fiction, enfin, les gens, c'était inintéressant, voilà, ça n'intéressait personne.
J'ai une amie à moi que j'espère pouvoir recevoir dans ce podcast qui s'appelle Sophie Audouin-Mikonian, qui a écrit Tara Duncan.
Oh oui, un gros succès.
Gros succès, et en fait, qui a écrit Tara Duncan à peu près 5-10 ans, peut-être 10 ans même, avant Harry Potter.
Ouais.
Et donc c'était un gros pavé à l'époque, et elle était allée les montrer à des éditeurs jeunesse qui auraient fait, mais les jeunes, ils lisent pas, quoi.
Ouais.
Et en fait, elle l'a ressorti quand Harry Potter a cartonné, et ce qui est dramatique pour elle, c'est que de ce fait-là, tout le monde dit, ok, en fait, la meuf, elle a surfé sur le succès d'Harry Potter pour écrire son truc, alors qu'elle l'avait écrit je pense 5 ou 10 piges avant, quoi.
Ouais, mais il y a un vrai drame, c'est que il y a des gens qui, sur Europe 1 il y a 4 jours, pas plus tard que ça, les gens disent les jeunes ne lisent pas, ils jouent à des jeux vidéo, mais il faut voir que les jeunes lisaient des livres dont vous êtes l'héros, par exemple dans les années 80, mais c'était des choses anglaises qui s'étaient vendues à des millions d'exemplaires et que Gallimard a dit tiens, bah, peut-être qu'on va en vendre quelques-uns en France, donc ils ont fait traduire. Après, les jeux vidéo sont arrivés et ils se sont dit bah, on va continuer à éditer La Bibliothèque Verte pour fournir les CDI, mais au niveau éditorial, ça se vend pas, ça se vendra pas, donc il y a une prise de risque minimum. Et en fait, à aucun moment, enfin, la France a toujours été suiveur en termes d'édition. Voilà. Et moi-même, quand on me contacte, par exemple, pour un projet éditorial, on me dit, j'ai un drame dans lui, c'était, on me dit, vas-y, fais ta magie, Fibre Tigre, je propose quelque chose. Et on me dit, non, ce serait bien de faire comme cet Américain qui a marché. Et alors j'ai dit, bah, allez voir quelqu'un d'autre, voilà, c'est pas. Et voilà, mais il y a aussi cet aspect que, bah, en France, une entreprise coûte cher, comme tu le sais, et les salariés coûtent cher, donc les marges sont très très faibles. Effectivement, la prise de risque doit être minimum. Voilà.
J'aimerais bien comprendre comment t'en es venu de ton parcours scolaire et donc sans doute ta passion. T'écrivais déjà en fait, parce que tu disais que tu lisais, mais est-ce que cette lecture, tu la transformes ? Tous les lecteurs ne se transforment pas forcément en écrivain, quoi.
Alors j'ai commencé à écrire parce que ça me plaisait bien. J'ai pas du tout une formation littéraire et du coup j'écrivais pas très bien. Et aujourd'hui encore, c'est pas là mon point fort, les styles. Par contre, assez tôt, en 2000, je voulais faire des jeux vidéo. Et les jeux vidéo, c'est un métier un peu, c'est un métier assez compliqué, c'est-à-dire que il faut être écrivain d'une histoire, codeur, animateur, dessinateur, musicien. Donc en général, soit on forme une équipe, soit il y a des gens extraordinaires, comme un jeu qui est souvent cité par Mimi, qui est Stardew Valley. Il y a des jeux extraordinaires qui sont faits par une personne.
Il a tout fait tout seul.
Voilà, qui sont des Orson Welles du jeu vidéo, qui aussi vivent une vie d'asset pendant plusieurs années et qui sortent leurs jeux. Et moi, je savais pas trop faire ça, donc je me suis concentré uniquement sur des jeux textuels, une branche très particulière qui s'appelle la fiction interactive. Et donc, ça m'a permis de... C'est un peu le cinéma expérimental du jeu vidéo. Ce qui fait que j'ai été dans cette scène pendant 10 ans. Ce qui fait que ça m'a surformé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis obligé de freiner quand je propose des concepts dans le jeu vidéo parce que ça plaît pas. Des choses expérimentales, ça plaît pas forcément aux gens. Ça veut pas dire que... Loin de là que je suis plus talentueux que la plupart des game designers, puisque sinon je serais un grand game designer dans une grande boîte. Mais ça veut dire que voilà, j'ai acquis un goût de la liberté et du différent qui n'est pas forcément compatible avec des grandes sociétés. Et donc j'ai commencé à faire mes classes là-dedans. En parallèle de ça, j'avais un boulot alimentaire, voilà, qui m'a, comme beaucoup de gens, qui m'a rendu malheureux. Voilà. Et à un moment, j'ai... J'étais vraiment très 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 malheureux à tel point que il y a une rupture dans ma vie qui fait que j'ai dit maintenant j'arrête. J'ai 6 mois de loyer devant moi. Pendant 6 mois, je vais kiffer, je vais faire ce que je voulais.
T'avais quel âge ?
J'avais 33 ans.
Ok.
C'est
un peu tard, entre guillemets, dans ta vie, même s'il y a des gens qui...
Ouais. Enfin, parfois, je me dis... avec le temps, je me suis dit tout est nécessaire dans la vie, tu vois. Et effectivement, j'ai une période de, on va dire, de frustration et de non-création pendant ces années-là. Mais c'est nécessaire, ça a été nécessaire. En tout cas, j'ai dit, je fais ce que je veux.
Donc entre le moment de la sortie de tes études, tu vas dire, on va dire, et
33 ans.
Et 33 ans.
Ouais, je suis sorti de mes études à 23 ans, donc 10 ans de ma vie, voilà. Où j'ai pas été.
Tu faisais quoi comme métier ? C'était un métier. Tu faisais ton métier d'ingénieur.
En gros, j'étais entrepreneur. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis capable de faire ma compta, de faire des courriers juridiques, de connaître les. Enfin, je peux monter n'importe quelle entreprise. Donc, je dis pas que ça a pas marché, mais je dis que ça m'a rendu très malheureux. Et il y a quelque chose que tu fais et que je ne ferai plus jamais de toute ma vie. Je n'aurai plus jamais de salarié, ça c'est sûr. Voilà.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que, et pour le salarié et pour le patron, c'est un peu comme par exemple, tu vois, ces gens qui, notamment Mademoiselle, prônent le couple libre, tu vois. Okay. Et ben, je pense qu'il y a une sorte de mariage extrêmement fort en France entre le salarié et le patron qui les rend malheureux. C'est-à-dire que le salarié vit dans la peur d'être licencié et le patron vit dans la peur d'un sale coup du salarié. Alors que ça devrait être l'inverse, ça devrait être le mariage heureux. Et cet aspect de...
Je ne sais pas si tu sais, mais en Islande, il n'y a pas de contrat. Bon, en même temps, ils sont 400 000 et il y a le plein emploi là-bas. Donc, si tu veux, il n'y a pas vraiment ce souci-là. Mais y a, culturellement, en fait, ils se serrent la pince. Ils se disent, OK, on va travailler ensemble. Et le jour où l'un ou l'autre décide de ne plus travailler ensemble, en fait, c'est que ça ne marche plus. Et donc, ils décident de simplement partir comme ça, chacun de leur côté.
Mais ça, c'est le problème du plein emploi. Mais en fait, le vrai problème n'est pas un problème ni du salarié, ni du patron. Le problème, il vient des banques. C'est-à-dire que sans CDI, en France, tu n'es rien du tout. C'est-à-dire que moi, je suis largement capable de payer un appartement à Paris. J'en avais un où j'avais un loyer de 1 500 €, donc c'est considérable par rapport au reste de la France. Je l'ai perdu parce que Macron a fait une loi qui fait qu'on ne peut plus spéculer sur l'appartement. Donc mon propriétaire a vendu son appartement et j'ai dû trouver un autre appartement. Et sur la foi de mon compte en banque, de ce que je gagnais en droit d'auteur et non pas sous le code d'un CDI, je n'étais incapable de trouver un appartement à Paris. Actuellement, je vis dans la diagonale du vide, dans un village où quand j'ai loué, j'ai 120 mètres carrés pour 300 €. Quand j'ai loué, j'ai dit, il faut quoi pour le dossier? Je transpirais. Elle m'a dit, pas besoin de dossier. Tous les apparts sont vides, tu vois, parce que personne ne loue ici. Et donc, c'est un drame, tu vois. Mais effectivement, moi, je comprends que si j'avais eu à l'époque des enfants à ma charge et que je devais absolument rester à Paris pour X ou Y raison, je me serais tué mentalement à vouloir garder un travail en CDI. Mais ça, c'est parce qu'il y a un point faible dans notre société qui est, à mon avis, la confiance des banques. Je ne sais pas si ta banque te prête à ton entreprise, mais moi, je sais que, quelle que soit la somme en centaines de milliers d'euros que je peux avoir sur mon compte, jamais la banque ne m'autorisera un découvert. Ça, c'est affreux. Hein.
De ton entreprise, tu veux dire, ou
de mon entreprise. Mon entreprise, c'est vraiment... Enfin, je veux dire, parce que je suis un créateur de jeux vidéo, tu vois, c'est quelque chose qui dans ce monde de costumes cravates et de gens où il y a des business models où on comprend bien comment fonctionne une pizzeria, tu vois, voilà. Et je leur en veux pas vraiment parce que c'est un système, voilà, c'est un système. J'espère qu'il changera avec la venue de des gens jeunes, par exemple, qui est dans la réaction de Mademoiselle, qui se font se dire, on n'a pas besoin d'un travail, on n'a pas besoin d'un bureau pour travailler, on n'a pas besoin d'avoir deux horaires fixes pour faire du bon travail, et on peut marcher aussi à la confiance comme en Islande, mais bon.
Y a une question que je me pose te concernant, c'est comment t'as fait pour finir par mettre peut-être tous des bouts de puzzle différents ensemble pour venir te dire, moi, mon cœur de métier, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de raconter des histoires. C'est pas un métier, ça n'existe pas. Ça l'était sans doute à l'époque, conteur.
Mais alors déjà, première chose, grâce aux jeux vidéo et un peu à la série télé, il y a eu l'émergence d'un mot américain qui s'appelle narrative designer. Et on dit bien narrative designer, c'est pas simplement raconter une histoire, c'est-à-dire je sors mon livre d'histoire et je t'en raconte une, mais en plus la structure pour qu'elle rentre dans ton média. Et puis il y a le storytelling, et puis tous les arguments commerciaux. Aujourd'hui, les publicités, on peut plus dire ce shampoing Y est meilleur que ce shampoing X, mais on dira ce shampoing vous emmène dans un autre voyage, on va dire. Donc ça, c'est du storytelling. Donc bon, après, là où c'est bien, c'est, moi je suis pas ultra compétent, mais donc stratégiquement je me suis placé dans des domaines où les gens étaient vraiment nuls, tu vois. Et le jeu vidéo, en termes d'histoire, c'est vraiment très très faible. C'est-à-dire que, quand on écrit en bon français, déjà on est, n'importe quel journaliste qui écrit bien peut devenir un très bon narrative designer dans le jeu vidéo. Après, à un moment, les gens vont parce que c'est très déconsidéré. C'est-à-dire que tout comme ma banque ne considère pas le métier. Enfin, demain, si t'écris très très bien, bah, tu vas écrire un livre et tu vas le présenter à Gallimard. Tu vas faire 2000 ventes, super, tu vois. Si t'écris un peu moins bien, tu seras journaliste, tu feras de la série télé, tu vois. Et si t'es vraiment nul, bah, le jeu vidéo t'ouvrira quand même les bras. Parce qu'ils ont besoin de gens. On prend beaucoup de gens. On recrute beaucoup.
C'est à ce point-là?
C'est d'autant plus que le métier d'auteur n'est pas considéré. C'est-à-dire que tu es un rouage de l'entreprise comme un autre. Et de la même façon qu'il y a un bouton qui est trop gros, ben, on lui enlève 20%. Ton histoire dit, ben, mec, il faut l'enlever 20%, je veux pas le savoir, tu vois. Et or, voilà, une histoire, c'est un peu ton bébé, contrairement à un bouton, mais bon. Mais aujourd'hui, enfin, ça recrute bien, ça recrute toujours. C'est un secteur en. Enfin, aujourd'hui, c'est le secteur de loisirs qui a le plus gros chiffre d'affaires, y compris en France, au-dessus du cinéma. Et effectivement, je dirais, ça paye carrément mieux que le cinéma. Voilà, et puis les chiffres de vente sont plus importants. Voilà.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers le jeu vidéo ?
Ben moi, alors, j'adore le jeu vidéo déjà. Donc, j'ai beaucoup aimé le jeu vidéo. Après, être travaillé dedans m'a un peu dégoûté du jeu vidéo. Et récemment, j'ai pris la décision de m'éloigner un petit peu du jeu vidéo et j'ai re-appris à aimer le jeu vidéo. Donc, voilà, c'est une phase. Mais le jeu vidéo.
Est-ce que t'as monté un studio?
Non, j'ai pas vraiment monté un studio. Je suis associé par projet à un créateur. Ou enfin, si demain quelqu'un veut me proposer un, alors y a toujours ce on propose des CDI justement dans le jeu vidéo et ça j'en en veux pas trop parce que en fait il y a ce problème de quand t'es dans la création c'est compliqué d'arriver à 8h du matin et d'être créatif jusqu'à 18h et après d'arrêter, tu vois, donc c'est j'aime pas trop cet aspect mécanique CDI. Et le problème aussi c'est que les grosses structures du jeu vidéo ont une grosse culture du secret et dans les très grosses structures il y a un projet sur 6 qui sort jamais. C'est-à-dire que parfois tu vas travailler 6 ans sur un projet, tu peux pas en parler à personne et le projet sort pas. Donc c'est pas que c'est ballot pour ton CV, c'est sûr, mais en plus c'est une frustration intense en tant que créateur. Donc ça c'est quelque chose que je veux pas vivre. Après le problème du jeu vidéo, à mon avis, c'est que il était très industriel dans les années 2000 parce qu'il y a eu World of Warcraft, je sais pas si tu te souviens.
Donc ah oui.
Non mais en fait dans les années 90, tu pouvais faire ton jeu dans ton début des années 90, je faisais ton jeu dans son garage, Another World par exemple. Et puis les gens ont compris qu'il y avait de l'argent.
Another World qui est l'un des tout premiers jeux. Enfin, en tout cas, moi j'ai en tête que c'est un des tout premiers jeux avec une vraie histoire construite.
Voilà, c'est un beau jeu avec une belle histoire d'Eric Chahi, qui aujourd'hui est dans la collection permanente du Museum of Modern Art. Donc c'est une grande borne de l'histoire de l'art du jeu vidéo. Et après, bon, il y a eu de plus en plus d'argent qui a été investi dans le jeu vidéo. Lucasfilm Game qui était une branche de George Lucas de Star Wars a commencé à faire des jeux vidéo, donc tout ça. Et on arrivait à un point culminant dans les années 2000 avec World of Warcraft qui appartenait à Vivendi, qui dégageait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires tous les 3 mois. Et c'était vraiment une industrie. C'est-à-dire c'était l'industrialisation. Et il y avait impossibilité de s'exprimer. Et d'ailleurs, l'industrialisation a fait qu'il y a eu une déperdition de la création. C'est-à-dire que dans les années 90, quand on faisait de la musique de jeux vidéo, on programmait. Et donc, tu avais un programmeur musicien qui se disait, mais tiens, si quand je fais une séquence de dialogue et que je discute avec quelqu'un, si cette personne s'énerve, tiens, je vais faire que, au moment où il s'énerve, à n'importe quel moment, je vais baisser d'un demi-ton la musique, ce qui fait que la musique va accompagner le propos, tu vois. Et dans les années 2000, on s'est dit, waouh, mais si on mettait Hans Zimmer qui faisait une BO en MP3 orchestral avec l'hôtel Orchestral Symphonic of London, eh ben, ça va empêter, ça va être extraordinaire, les gens vont acheter le jeu. Et donc, du coup, on a perdu cette technicité, ce savoir-faire pour un peu singer le cinéma, ce qui était une voie comme une autre, mais qui s'est pas avéré si féconde que ça, mais on en a encore les échos. Et en 2008, grâce à Apple, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc déjà, Apple a permis le podcast, ce que nous faisons aujourd'hui, et Apple aussi a permis aux gens de sortir et Steam aussi d'une autre façon, sortir des jeux et de les vendre directement sans passer par la Fnac par exemple à des gens. et ça a été l'explosion d'un marché indépendant. C'est-à-dire n'importe qui pouvait dans son garage, comme le mec de Stardew Valley, faire un jeu vidéo, le vendre et devenir littéralement millionnaire. Voilà. Et c'est une scène aujourd'hui qui est en train de disparaître un petit peu. Voilà.
Ah ouais ?
Ouais, c'est pour ça que moi-même je suis en train de prendre mes distances avec un peu le jeu vidéo parce que c'est épuisant. Bah, y a le marché, les Chinois deviennent le premier marché, donc c'est un marché un peu compliqué. Les distributeurs, donc les magasins comme Steam gèrent mal, voilà, ils gèrent mal les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, les plus gros prennent vraiment la mise comme Fortnite, voilà. Ils redistribuent avec un certain fair play, donc on ne sait pas trop, mais aujourd'hui on est plus dans une stratégie de décroissance que de croissance, voilà.
Ah,
dans le terme de jeu indépendant.
Oui, j'entends bien.
Ouais.
Ok, et quand tu dis que tu as eu du mal toi à le vivre, ça veut dire quoi concrètement? Parce que donc pour resituer, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est que tu as sorti un premier jeu, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Out There, mm-hmm. C'est ça?
Alors c'est le travail de deux personnes, donc oui. Mon associé Mickaël et moi, qui a très bien marché, qui marche encore très bien.
C'est sorti quand ça?
2014 je dirais, voilà. Il y a eu des suites, j'ai sorti d'autres jeux, mais aujourd'hui j'ai l'impression que quand je travaille avec qui que ce soit, quand je travaille avec quelqu'un, le discours est plus comment on va le vendre et plaire aux gens, ce qui est un discours légitime et normal. Comment on va faire en sorte que les streamers streament le jeu, voilà, que les Chinois acceptent le jeu. Il y a plus ce discours-là que je vais raconter un truc extraordinaire que personne n'a jamais vu. Moi, ça, aujourd'hui, ça rentre en conjonction avec d'autres faits qui font que je suis fatigué, tu vois. Et je peux pas. Enfin, c'est pas mon rêve, on va dire. Voilà. Néanmoins, je désespère pas de raconter de belles histoires dans le jeu vidéo si j'en ai l'occasion. Voilà.
Et donc, quand tu dis que tu es en train de tourner une page, c'est la crise des 40 ans, c'est ça qui est...
Non, pas trop. Non, mais je vais donner un autre exemple. Moi, sur mon compte Twitter, je fais souvent des blagues. J'aime beaucoup rire. Je trouve que l'humour, c'est vraiment super. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent. Et je ne méprise pas du tout l'humour de scène de ménage de M6, même si on s'en lasse vite, on va dire. Mais au moins, il y a de l'humour, tu vois. Et je trouve, le jeu vidéo, c'est 1000 jeux qui sortent par jour. Il n'y a pas d'humour. C'est une industrie qui est sinistre. C'est-à-dire, c'est une industrie qui ne se prend même pas au sérieux. C'est juste une industrie où le chiffre est là, l'argent est là, et la prudence est telle. C'est-à-dire, on a tellement peur de tous mourir parce que tu fais 60% de ton chiffre d'affaires le premier jour, c'est très violent. On a tellement peur de tout mourir que personne ne rigole. Voilà. Et moi, j'ai eu l'expérience très amère de textes pétillants, plein d'humour que j'ai envoyés. Et en fait, on se posait la question simplement. C'est un peu la question, je vais dire un truc, j'espère pas vous choquer, mais en gros, Bigard, il a rempli des zéniths. Aujourd'hui, Bigard, il pourrait se faire tabasser dans la rue. Et effectivement, faire sortir un jeu vidéo dans un monde qui est tellement rapide, tellement connecté et qui change tellement d'avis, quand tu fais une blague, prendre le risque que dans 6 mois, elle soit culturellement plus acceptable. Voilà. C'est bête à dire, mais moi, je veux pas... Enfin, même si les gens des années 80, ils étaient racistes quand on voit les films, je peux pas retourner dans le temps et les tabasser en disant vous êtes raciste, parce que les gens n'avaient pas de repères pour se hisser hors dehors de leur racisme, parce que c'est une lutte progressive, tu vois. Et heureusement, les sociétés progressent. Mais effectivement, dans le jeu vidéo, on ne peut pas prendre ce type de... Et du coup, j'ai fait un jeu humoristique récemment qui va sortir dans 2 mois, qui s'appelle Antioch. Et ben, j'ai dû le réécrire en entier. Enfin, j'ai dû le réécrire conséquemment, parce que il se passe dans les années 80, je parlais du sida, je parlais du racisme ambiant, des choses comme ça, et c'est des thématiques effectivement qui sont très très délicates à traiter, voilà. Et en général, la règle dans le jeu vidéo, c'est que tu peux évoquer des sujets graves comme le racisme si ton jeu est sur le racisme, mais si ton jeu est sur, je sais pas, une ferme comme dans Stardew Valley, c'est faire une prise de risque de mettre une petite blague de côté et le racisme. Ce qui fait que je trouve qu'on manque un peu d'humour. Voilà. Et je dis pas qu'il faut être raciste pour faire l'humour, mais effectivement, on est toujours dans cette position de dire le temps que le jeu sorte, il va se passer 4 ans. Est-ce que la blague un peu légère que je fais aujourd'hui, elle sera encore acceptable dans 4 ans? Voilà. Et je dis pas on ne peut plus dire. Hein. Voilà. Je dis juste que. Non, parce que après, je m'exprime sur d'autres supports. Mais dans le jeu vidéo, on investit tellement d'argent à la base et pour un résultat qui est tellement violent, tellement bref, tellement subite et tellement sur une très courte période de temps que la prudence extrême est de mise et du coup on peut pas se permettre tout. Voilà.
Ton travail de conteur d'histoire va au-delà du jeu vidéo. Tu as écrit une escape room par exemple, plusieurs escape rooms.
Ouais.
Avec Chloé qu'on a déjà vu sur Mademoiselle
Alors c'était assez intéressant parce que l'escape room c'était la toute première escape room. Alors les gens disent c'est pas la toute première. Je précise le contexte, c'était la toute première créée en France sans copier-coller un concept qui était ailleurs. Voilà. Et donc effectivement, et pour moi c'était vraiment, j'étais jamais allé dans une escape room de ma vie, donc c'était et là la difficulté, c'est intéressant, on retrouve encore les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on est en 2013. Et les banquiers, les bailleurs nous disent vous êtes cinglés. C'est-à-dire, vous pensez vraiment que des gens vont payer pour être enfermés dans une pièce, mais vous êtes fous. Voilà. Et donc, on a, et pas seulement nous, hein, des grandes licences qui sont à Paris, ont eu énormément de mal à convaincre les gens que c'était une bonne idée, que c'était une idée qui était viable économiquement. Elle n'est pas si viable économiquement que ça, mais elle est intéressante. Et effectivement, après, il a fallu créer des choses. Et c'était très intéressant de créer des choses à partir de rien. Mais créer des choses à partir de là, ça nous a permis aussi de créer... Enfin, c'est intéressant parce que quand tu es dans un domaine nouveau, comme le jeu vidéo ou l'escape room, tu es obligé de créer une grammaire, des lexiques, des mots, tu vois, qu'on présente précisément les choses. Et j'ouvre une parenthèse, c'est que dans le jeu vidéo, aujourd'hui, le jeu vidéo, il est de quelle nationalité ? Moi, ça peut se défendre. Il est un peu américain, tu vois. Mais en fait, en vrai, par exemple, en France, on a Raymond Queneau qui, en 1967, publie un poème dans Libération, dans lequel c'est un poème interactif qui va donner par la suite les idées dont vous êtes l'héros. Bon. C'est discutable encore, tu vois. Mais dans les entreprises françaises du jeu vidéo, on parle anglais. Voilà. La terminologie est anglaise. Et moi, je n'ai pas de problème avec l'anglais, mais je me bats un peu pour qu'on mette du français dans le jeu vidéo et que les Russes fassent des jeux en russe, que la langue de travail soit le russe, parce que la langue, ça forme la pensée, tu vois. Et tu peux, enfin, si tout le monde travaille en anglais, les gens vont avoir des idées d'anglais ou d'américain et ils n'auront pas des idées françaises, voilà. Et ça fait partie des combats que j'ai perdus dans le jeu vidéo et qui m'ont épuisé, tu vois. C'est-à-dire, j'ai dit, allez, j'arrête de me battre là-dessus parce que c'est compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des pays résistants, tu vois. Il y a le jeu vidéo et le jeu vidéo japonais. Tu vois, le jeu vidéo japonais est très particulier. Ben, les Japonais, quand ils vont faire des conférences aux États-Unis, ils parlent pas américain, ils parlent japonais. Hein. Voilà.
C'est l'aspect insulaire, tu penses, qui gagne sur le fait de...
Ben, déjà, je dirais, moi, comme je maintiens le truc. Hein. C'est-à-dire que le langage forme la pensée. C'est-à-dire que les Japonais, ils pensent japonais, ils mangent japonais, ils consomment du japonais et ils travaillent en japonais. Donc, ils nous offrent quelque chose de japonais. Et nous, on l'accepte et on a quelque chose de gentil. Et quand... Enfin, je veux pas leur taper dessus, mais parce que ils sont énormes. Donc j'aime bien cet exemple parce qu'ils sont vraiment très gros. C'est une grande réussite. Ubisoft, c'est des Bretons. Ils sont vraiment excellents. Mais toi, c'est des Bretons. Mais quand ils te proposent un jeu, ça pourrait être un jeu américain, tu vois. C'est normal parce qu'aujourd'hui, le plus gros marché, il est américain. Mais voilà, il y a ce côté. Moi, je veux pas être Monsieur François français, défend les francs français. Mais il y a des choses dans notre patrimoine. Il y a eu une masterclass il y a, je crois, 5 ans, parce que c'était l'époque où Las Vegas, les experts Las Vegas marchaient beaucoup. Mmh. Donc, masterclass de scénaristes américains qui venaient expliquer aux scénaristes français comment faire des séries qui marchent. Dieu sait qu'on en a besoin. Hein. Le problème ne vient pas des scénaristes, hein, c'est bien plutôt des intermédiaires. Et les Américains ont dit, mais attendez les gars, nous, on s'inspire de vous. On lit Les Misérables, on lit Les Mythes Grecs. Et on les écrit sous forme de policiers, hein, c'est tout. Donc ne nous copiez pas, regardez simplement ce qu'il y a chez vous. Et effectivement, voilà, connaître ces classiques, c'est... Quand je donne des cours, je dis la première chose à faire, c'est connaître vos classiques. C'est libre de droit, c'est gratuit, vous pouvez même copier-coller, il n'y a aucun problème. Et en plus, c'est des histoires qui sont meilleures que n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, c'était la fin d'une énorme parenthèse, je suis désolé.
Non, c'était intéressant. On va parler de podcast.
Ouais.
Parce que tu fais aujourd'hui partie de l'équipe de qualité.
Ouais.
T'es podcastos, je pense qu'on peut dire.
Ouais, on peut dire un peu. Hein.
Podcastos. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment t'en es venu ? Alors peut-être comment s'est créé Qualité ? Parce que je pense que tu fais partie des membres fondateurs de Qualité.
Alors moi, quand j'étais petit, j'écoutais dans ma solitude, j'écoutais des romans, des feuilletons radio sur France Inter, Le Mystère du Coffre Rouge, Sophie Le Bière. Et moi, je me suis dit, je veux faire ça. C'est le truc que je veux faire, c'est mon but ultime dans la vie. Et
raconter des histoires.
Ouais, feuilleton radio. Ouais, parce que ça me semblait... En fait, ce qui est cool... c'est que c'est pas cher. C'est-à-dire que tu peux prendre un sous-marin de 300 mètres ou un vaisseau spatial, n'importe quoi, mais ça coûte pareil que si c'est dans une classe d'école. Donc dans le cinéma, c'est pas pareil. Donc pour moi, c'était... j'ai une méthode de travail, j'ai un principe de vie qui me plaît beaucoup, c'est très petit budget, mais gros retour sur investissement. Moi, mon budget fétiche, c'est je mets 10 000 euros dans un projet et je récupère 30 000, tu vois. Moi, je suis vraiment très heureux. Après, effectivement, il y a des gens, ils disent, bah, t'as récupéré que 20 000, tu vois, mais, et t'as beaucoup travaillé, mais c'est, pour moi, c'est le retour sur investissement fois 1,5, fois 2, fois 3, fois 5, fois 10, ça montre que l'œuvre est de qualité. Tu vois, et ça me plaît. Ça me plaît plus que d'investir 400 000 euros dans un jeu vidéo et de récupérer 450 000, tu vois. Je récupérais 50 000 de plus, enfin 50 000 au lieu de 30 000, au lieu de 20 000, mais pour moi, enfin, ouais, bref, ça m'a... Voilà mon... Et le feuilleton...
Ça fait fois 3 d'un côté.
Ouais. Non, mais voilà, mais le feuilleton radio, en tout cas, m'intéressait pour ça. Et quand j'ai arrêté en 33 ans là, de faire mon métier, et que j'ai dit maintenant, je fais ce que je veux, notamment je joue à Skyrim. En fait, il y a un truc qui est fou dans la vie, c'est que dès que tu t'arrêtes de faire un truc, et si tu as l'esprit ouvert, tout de suite ce vide il se comble. Voilà, tout de suite. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est fou, c'est-à-dire que parfois j'ai peur que j'ai une émission qui s'arrête, que j'ai un projet qui tourne mal. Mais en fait, non, parce que si ça s'arrête, ça crée un vide, et tout de suite il va être comblé par quelque chose qui est probablement meilleur, tu vois. Et là, vraiment, 3 jours après que j'arrête, il y a l'âme qui me contacte et qui me dit : j'ai lu ton blog. Je voudrais qu'on va lancer The Verge en France. Je voudrais que tu écrives 5 articles. J'ai commencé à écrire des articles. C'est comme ça que je l'ai connu. Et l'âme s'est fait approcher par un producteur de Radio France à l'époque en disant faudrait faire une émission sur la tech, ce serait cool, tout ça. Et j'avoue que je l'ai poussé à mort parce que moi, dans mon objectif, c'était pénétrer Radio France et faire des feuilletons radio. Et moi, j'ai poussé à mort le truc. J'ai dit ouais, il faut le faire. Alors que la tech, je connaissais pas trop, tu vois. Enfin, je connaissais un peu, mais c'était pas mon délire. Donc, on a fait une émission qui s'appelle Studio 404 en Scred à Radio France.
En Scred.
Ouais, c'est-à-dire qu'on allait, à minuit. Ouais. Non, là, dans les locaux vides. C'est pas un secret. Hein. Donc, enregistrer un pilote, tu vois, qui a été refusé par aujourd'hui le boss de Binge, voilà. Et
coucou Joël
voilà, ça, non mais c'est vrai, mais comme quoi une fois de plus, hein, tu vois, à chaque chose l'échec est bon, puisque ça a été refusé, on s'est dit allez, on le fait quand même, tu vois. Et du coup c'est devenu ça a fait une rupture dans le marché. Le podcast existait déjà avant, il y avait Radio Kawa, il y avait même avant ça, il y avait Noël Buck, et ça a créé une petite rupture parce que tout d'un coup je m'inclus pas dans l'équipe, mais des Parisiens cool faisaient un podcast cool de qualité sur une régularité avec une vraie ligne éditoriale. C'était un peu un électrochoc. Ça a monté très fort en puissance.
C'était il y a longtemps. Hein. C'était.
Ouais, c'était en.
C'était parti de la première vague.
2014. Voilà. Ah mais la vague des podcasts un peu structurés. Mmh. Voilà. Après, Radio Kawa avait produit beaucoup de podcasts, mais c'était plus. C'était plus
côté radio libre.
Voilà, exactement. Très, très, très bon terme. Et donc, ça a été devenu très populaire. Et du coup, les gens disaient comment on peut vous aider. Et on a voulu monter un Patreon. Il nous a fallu une structure sociale. On a créé Qualité. Donc, je fais la compta tous les samedis. Là. Et alors, c'est une société qui a une très faible surface financière. Mais il y a un truc qui est assez sain, entre guillemets, c'est que on a dit, on ne rentre pas dans le délire de on veut gagner de l'argent, on se paye, on est rentable, on kiffe, on fait que des trucs kiffants. Ça, c'est la règle. Et jamais on bascule, tu vois. Et du coup, voilà, c'est bien. C'est-à-dire que des fois, on est tenté. C'est-à-dire des fois, il y a des sponsors qui viennent nous voir.
Là, c'est le moment, ça frétille sur les podcasts là.
Ouais, ouais. Et je sais pas. Et c'est assez intéressant. C'est une tragédie, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a peut-être un gros qui va venir et qui va dire, on vous rachète, mais vous faites ça. Et ce sera intéressant parce que on va probablement dire oui, tu vois. Et on verra cette espèce de pacte initial qui va mourir, tu vois, ou pas. Peut-être qu'on va dire non parce que finalement, on n'a pas envie de perdre ça. Parce qu'il y a des moments où tu dis ce que tu veux et t'es content. Où tu vas, on fait des campings avec nos auditeurs 2 fois par an, tu vas et voilà, ta communauté, t'as créé ça, t'as même des enfants.
Pas n'importe quel camping, hein, c'est des campings déconnectés.
Voilà, oui, en plus il y a des gens qui grâce à nous se sont rencontrés, ont eu des enfants, tu vois, donc ça devient quelque chose qui nous dépasse un peu et voilà, je sais pas si on va se professionnaliser. On essaie de faire d'être juste déjà dans la légalité, ce qui est bien, voilà. Oui, non, parce que tu peux pas en France collecter de l'argent, Enfin, tu vois, avoir des Patreons. Nous, on essaie de. On a même une assistante de production qu'on rémunère. Tu vois, on fait tout très carré. C'est pour ça qu'on a un certain degré de professionnalisation, mais ça ne va pas plus loin que le fait d'être dans la légalité et pas dans l'enrichissement.
Ok. Hein. Et tu penses que ce prix-là, c'est le prix à payer pour la liberté ?
Ouais. Et en fait, c'est le plus dur, c'est pas de dire je pourrais gagner plus d'argent et m'acheter une voiture. Le plus dur, c'est de pas être dans la normalité. C'est-à-dire que normalement, ta vocation, encore une fois, à avoir ce sacro-saint CDI, cette paye qui tombe tous les mois et d'être et d'émettre des factures et d'avoir des clients. Le plus dur, c'est ça, c'est de se dire, on va quand même, on a une société, une vraie SA, qui a une comptabilité, un expert comptable, mais on va faire que ce qu'on se kiffe dedans. Et c'est un exercice mental qui est un peu compliqué. C'est très compliqué. Moi, j'ai pas d'horaire, je me lève quand je veux, je me couche quand je veux, je fais ce que je veux de mes journées. À peu près modulo les horaires de vos clients, tu vois. Mais cette liberté, elle nécessite un petit effort mental qu'on n'a pas. Et c'est très facile dans une société qui marche à heure fixe de sombrer dans la normalité. Voilà.
Tu racontais tout à l'heure que tu avais décidé de quitter Paris aussi.
Alors, j'ai pas décidé, malheureusement, j'ai été jeté.
T'as été évincé.
Voilà, j'ai pas trouvé du tout d'appartement. J'ai pas trouvé.
Ah oui, donc c'était pas une décision de ta part.
Ah non, aucun. Enfin, je veux dire, tu vas voir une agence immobilière à Paris, tu leur dis, je n'ai pas de contrat de travail. Et les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, ils disent, mais pourquoi vous cherchez. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois, pour eux. Parce qu'ils veulent. Enfin, déjà, il faut avoir des contrats, des copies de contrats, des fiches de paye, des garants. Voilà, j'avais pas les moyens de donner ça. Voilà, j'aurais pu payer un loyer d'avance à l'année, tu vois, mais. C'était pas des deals qu'ils voulaient. Donc, en l'absence de ça, j'ai suivi ma compagne actuelle qui est loin dans l'Est. Voilà. Alors après, c'est pas loin puisque regarde, je suis à Paris aujourd'hui.
Je fais des allers-retours très réguliers.
Ouais, je fais des allers-retours une fois par semaine parce que c'est à Paris que tout se passe. Voilà. Tous les rendez-vous, tout le commerce, tous les enjeux, notamment en médias et voilà, toutes les choses importantes. On peut pas faire ça en dehors de Paris, malheureusement. Et voilà, je m'habitue, je travaille dans le train, voilà. Et financièrement, j'y gagne, voilà. C'est-à-dire que j'ai un loyer tellement faible, dans cette France de la diagonale du vide que. Et après, c'est calme aussi, hein. C'est voilà, je vis à côté d'une rivière, je vois des canards tous les jours, c'est très agréable, voilà. Donc, mais c'est différent. Quand on arrive à Paris, il y a une pression omniprésente et une agressivité des gens qui fait que. Je réfléchis mieux, tu vois. J'ai envie de ça. T'as envie de te battre un peu en réaction, et du coup, les pensées vont plus vite. Mais
ah oui, tu penses. Ah ouais, j'allais dire plutôt. Est-ce que c'est pas ce calme-là qui t'a incité aujourd'hui à peut-être justement, tu disais prendre du recul un peu sur le jeu vidéo, peut-être changer un petit peu.
Non, la création, c'est beaucoup une histoire de restitution. C'est-à-dire que si tu manges que de la science-fiction, t'auras envie d'écrire de la science-fiction. Et effectivement, à Paris, tu subis tellement d'interactions, malheureusement, souvent violentes et agressives, que c'est très stimulant. D'ailleurs, je suis content de venir une fois par semaine ici. Et j'ai l'impression qu'il y a un escroc à chaque coin de rue. C'est-à-dire, tout le monde veut soit te prendre de l'argent, soit te prendre quelque chose. Toutes les interactions sont des agressions, d'une certaine façon. Mais c'est assez stimulant intellectuellement, du coup. Tandis que, tu vois, je veux dire, voilà, quand t'es dans la campagne, rien ne peut t'arriver. Un animal sauvage, peut-être. Mais, je veux pas caricaturer, mais effectivement.
mais t'es pas parisien, en plus.
Ah non, je suis pas parisien. Non, mais là, les gens sont vraiment gentils en province. Toi. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les gens te font confiance.
Déjà, est-ce qu'on dit en province
C'est pour situer par rapport à Paris, tu vois. Ouais. Voilà. Mais voilà, les gens sont. En tout cas, la vie est tellement tranquille qu'effectivement, on a une mode de pensée. Et là, tu vois, je l'ai dit, le langage affecte la pensée, mais le lieu où tu vis affecte aussi la pensée. C'est très intéressant.
Et donc, tu recommanderais à toutes les mademoiselles qui ont envie de venir se frotter, notamment au milieu de la création, de quitter leur province. Je sais pas quel terme on utilise, mais bref, c'est parce que apparemment province c'est très.
Ouais, c'est moi, je suis lillois,
donc,
ouais.
Moi, je suis lillois, donc je m'en bats les couilles.
Ouais, je pense qu'il faut le dire, mais en sachant que c'est pas bien, parce qu'on n'a pas d'autres.
Disons région, non, c'est pas ça, c'est encore
pareil,
pire.
C'est pareil, c'est ça, voilà. Donc on peut dire.
Bref. Venez donc à la. Est-ce que tu les.
Ça dépend du secteur. Ça dépend du secteur. Si vous êtes dans le jeu vidéo, il y a deux pôles très forts, c'est Lyon et Montpellier, voilà. Voilà, Lyon et Montpellier, c'est deux pôles de création dans le jeu vidéo. Après, le problème, c'est que Quand t'es à Paris, t'as 1 million d'opportunités. Tu vois, là, je suis avec toi, par exemple. Ça va apporter des opportunités. Mais ça m'arrive plein de fois où je reçois un SMS, un mail, tu sais, d'une personne donc, qui j'ai donné ma carte il y a 6 mois. Et il me dit, ah, t'es à Paris, viens prendre un café. Bah voilà, si je suis pas à Paris, je fais quoi? Si je suis à Cannes, je dis quoi? Bah, je viens dans 6 heures. Bah non, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a une, tu sais, ils disent, il y a une fracture numérique, il y a une fracture réelle géographique de l'opportunité de travailler en freelance. Et surtout, on n'a pas du tout la culture du rendez-vous Skype. Alors, avec des gens hyper connectés dans le jeu vidéo, surtout dans un secteur qui est mondial, souvent je fais des Skype avec plein de gens. Et en fait, le mec, ça se trouve, il est à Los Angeles, et je le sais même pas, mais ça se fait, tu vois. Mais pour la bande dessinée, l'écriture de romans, la série télé, la télé tout court, bah malheureusement, ça n'a pas évolué. C'est-à-dire, on est encore comme dans les années 80, où il faut se déplacer physiquement, faire du networking physiquement, prendre un café physiquement, et ça dure et ça palabre pendant des heures, tu vois. Et voilà. Et le pire, c'est que les décideurs ne sont pas des vieux. Ce sont des gens qui ont 23 ans. Simplement, il faut être à Paris. Je peux rien dire d'autre.
Ouais. Ouais, je peux témoigner, moi, c'est que ma boîte était à Lille, je l'ai montée à Lille, ouais. Et vivotais un peu à Lille jusqu'au jour où je faisais des allers-retours comme toi, jusqu'au jour où j'ai décidé d'ouvrir des bureaux. Et en fait, alors je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, si tu veux. C'est-à-dire que si, c'est parce que je me suis dit, OK, je vais quitter femme et enfant qui, elles, sont restées à Lille pour venir vivre à Paris, que j'ai décidé de me sortir les doigts pour faire en sorte que la boîte explose. Mais il y a aussi, effectivement, cette opportunité que j'ai... Enfin, ce phénomène fou qui est des gens qui passent dans ton bureau parce qu'ils étaient dans le quartier à un moment donné.
Moi, quand je faisais la promo d'Outdare, il m'arrivait littéralement la chose suivante. Je suis rentré, j'ai percuté physiquement dans la rue un mec qui était le directeur de jeuxvideo.com, tu vois. Et enfin, de la chaîne en tout cas, JVD. Et je lui ai dit, mec, vas-y, parle de mon jeu. Et il a dit, viens ce soir, tu vois. Donc, ça, c'est des trucs, effectivement, ça peut être arrivé. Et moi, je vois, je veux pas hyper anticiper ce que tu as vécu, mais effectivement, toi, t'es une société, t'as besoin de sponsors, t'as besoin de clients qui payent tes publicités. Et ces clients-là, je sais pas si L'Oréal est un client à toi, mais L'Oréal, il a Levallois-Perret. Et L'Oréal, s'il dit, venez à 12h, j'ai un slot, on prend un petit déj et on discute. Mec, si t'es à Lille, c'est mort, tu vois. Tu perds le contrat pour un autre mec. Et c'est affreux. C'est-à-dire que je sais pas quand est-ce que on va pouvoir.
Alors à Lille, tu peux, parce qu'en vrai, 1h30.
Oui, voilà. Non, mais si t'appelles pas 11h. Ouais. Mais moi, ça m'est arrivé récemment. J'étais dans l'Est, là, 2 heures de train. Et littéralement, j'ai mon N+1 à Webedia qui m'a dit, t'es libre parce que dans 1 heure, on a rendez-vous avec le grand patron. Ben, j'ai dit, non, il fallait me prévenir hier, tu vois. Et je sais que j'ai perdu une opportunité où il s'est rien passé. Mais je n'en sais jamais, tu vois. Et ça, effectivement, c'est injuste. Je dis, parce que les auditrices que tu as sont des gens jeunes, faites en sorte que ce monde change, qu'on puisse travailler sans bureau. Voilà, déjà. On n'est pas obligé d'avoir des bureaux pour travailler. Alors, je dis pas qu'on travaille de chez soi, on peut travailler dans un restaurant. Qu'on n'est pas deuxième chose, qu'on ne soit pas obligé de faire du présentiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas, tu ne gagnes pas ton salaire au nombre d'heures que tu passes dans un bureau. Voilà, fais ce que tu as à faire et après kiffe ta life, tu seras d'autant meilleur. Et le troisième point, c'est effectivement pas obligé de se voir physiquement pour faire des choses. Voilà. Après, je dis pas que c'est pas bien qu'il y ait un premier contact physique, qu'on se voit, qu'on serre la main, bon, le mec, tu vois. En fait, quand tu le rencontres en vrai, on voit s'il est honnête, si voilà. Il y a des choses, mais après, c'est bon, tout peut se faire à distance. Voilà.
Est-ce qu'on reparle des podcasts un petit peu ?
Volontiers.
Vous avez aussi lancé, donc tu parlais de Webedia tout à l'heure, un jeu de rôle.
Ouais.
Donc là, tu reviens dans ton truc de raconter des histoires à la radio. Alors en plus, c'est sur Twitch.
Alors, ça s'appelle Game of Rolls. C'est un projet que je suis hyper content de faire. Enfin, vraiment, c'est un projet. Quand on y est dedans, tout le monde kiffe. Tout le monde est hyper heureux. C'est limite des vacances, tu vois. Par contre, l'émission est dure à faire. Voilà, il y a beaucoup d'infrastructures techniques. Et une certaine rugosité du management interne, enfin des processus internes qui font que c'est une mission qui est compliquée à mettre en place. Donc à la fois, on va dire, c'est l'enfer et le bonheur. Mais une fois de plus, là, des fois, je me dis, oh, c'est tellement dur. On aurait tellement pu faire plus, tu vois. Et en fait, en vrai, je me change d'avis. Je me dis, j'ai tellement de chance de faire cette émission, même si j'en fais qu'une tous les mois, on va dire. Et tout ce que j'ai pris, je suis content de l'avoir pris. Et si un jour ça s'arrête, il y aura un slot de libre qui va être remplacé par quelque chose de meilleur. Voilà ce que je me dis.
Donc c'est un jeu de rôle.
Alors c'est un jeu de rôle live. Effectivement. Voilà, je suis maître de jeu. On raconte, on fait une histoire en live. On en a fait un chez Mademoiselle.
Et c'était trop bien. On va mettre le lien dans les notes.
Ah bah écoute, on refera. Hein. Mais voilà, donc c'est une histoire avec quatre joueurs. Ils vivent des grandes aventures. C'est un peu français parce que c'est un peu gaulois. Ça parle beaucoup de boue. Ça, il y a des aventures amoureuses, des choses comme ça. Mais ça reste dans une ambiance donjon et dragon, quoi. Et qu'est-ce que je peux te dire là-dessus ? Alors, c'est un projet de très longue date, je vais te dire. Hein. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire en 2012, j'ai commencé à faire des jeux de rôle, genre filmé en webcam, il y avait 27 personnes qui me regardaient. Twitch n'existait pas. Et en fait, j'ai proposé à très très longtemps à Mister MV, qui est aujourd'hui qui vient de clôturer le Z Event avec 3 millions, donc c'est super.
J'ai vu ça.
Event.
Fou, hein.
Donc j'avais proposé de faire un jeu de rôle. Et Mister MV, c'est un streamer extrêmement populaire et qui a beaucoup de succès. Parce que notamment, il est extrêmement professionnel et méticuleux. Et du coup, on a préparé le jeu de rôle pendant 2 ans. Avec des pilotes et une exigence extrêmement forte qui fait que j'ai beaucoup appris. Et malheureusement, au bout de 2 ans, j'en pouvais plus, quoi. T'imagines le projet ? Enfin, pour moi, le projet était mort, tu vois, parce que le projet n'arrivait pas à se faire. Et du coup, j'ai une proposition de la part de la JVTV, dans laquelle Mister MV était à la base, mais il s'est affranchi après. Et du coup, voilà, je suis parti chez la JVTV. J'ai fait ça chez la JVTV et c'était. Enfin, j'ai beaucoup de chance que ça se passe parce que c'est une belle aventure, on rigole beaucoup, ça nous fait beaucoup de bien. Voilà.
Et vous prenez ce contenu-là, que vous diffusez en live le dimanche, si je ne me trompe pas.
Voilà.
Donc là, il y a, on va dire, le moment de live avec les caméras, etc. Et vous le transformez en podcast.
Voilà. Alors, il vaut mieux le regarder en live parce que il y a des interactions avec le public. Mais on fait d'abord. Et donc, il y a le live Twitch, il y a le catch-up Twitch, il y a le catch-up YouTube, il y a le catch-up podcast en audio. Ça marche bien en audio. Ça marche aussi bien en audio qu'en YouTube. Voilà.
Ok.
Voilà. Et figurez-vous que. Alors, je ne peux pas trop en parler, mais il y a des grands groupes qui m'approchent pour faire du jeu de rôle. Voilà. Alors, ça devient cool. En fait, je te dis un projet que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais qu'on utilise le jeu de rôle pour expliquer des situations complexes. Par exemple, là, tu vois, il y a le procès Balladur. Enfin, c'est un truc qui est complexe. En gros, Balladur a touché des commissions en vendant des sous-marins au Pakistan pour financer sa campagne. Voilà. C'était en 95. Dossier extrêmement complexe. Et en fait, en vrai, si on te le présente sous une forme journalistique, c'est intéressant, mais c'est ardu. Si c'est un YouTuber qui le fait, ça sera sympa. Mais on a moi, j'aime bien, dans le jeu de rôle, parce qu'on peut rejouer une action. Et si tu veux, j'aime bien prendre quelqu'un qui dit « licencier des gens, c'est vraiment dégueulasse. » Ok, mec, vas-y, t'es patron. Vas-y, t'es patron, je suis le maître de jeu, on raconte l'histoire. Et je raconte l'histoire et je le mets dans une usine où il fabrique des clous. Il a une marge de 1 centime et il y a un mec qui vient en retard tous les jours. Et du coup, il est à moins 1 centime par mois. Tu fais quoi ? Ouais, tu le gueules après ? Tu le vires ? Raconte-moi ce que tu fais. Tu l'obliges à travailler ? Voilà. Et alors c'est très basique, ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme je t'ai dit, tout est nécessaire. C'est-à-dire que quand on refait le match d'une certaine façon et qu'on raconte l'histoire, les choses se font naturellement. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai des joueurs qui sont plein de bonnes intentions, mais ils se retrouvent pour gagner une petite pièce d'or à faire des trucs absolument abominables en termes de morale, parce que simplement on leur a demandé de le faire, ils l'ont fait, tu vois. Et on voit un peu comment fonctionne la nature humaine. Je pense que le jeu de rôle pourrait éclairer ça. Donc je travaille en ce moment sur un format qui ferait ça, c'est-à-dire qui revivrait sous un angle un peu expert, on referait le match de grands problèmes de société. Voilà. La mairie de Paris, par exemple. L'écologie, je veux dire Hidalgo par exemple, aujourd'hui elle fait des pistes cyclables, ça divise les Français. Qu'est-ce qui est le mieux ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, est-ce qu'on, ok, ça fait plein de bouchons, mais est-ce qu'on assume les cancers du poumon qu'il y aura dans 3 ans ? Voilà, c'est intéressant, c'est les gens peuvent exprimer leur opinion, mais quand on les met à la place quand on les met dans le personnage, c'est moins compliqué, c'est plus compliqué, voilà.
Et tu travailles, tu m'as dit c'est secret, c'est ça, mais tu travailles donc avec des institutions, c'est ça pour ça ?
Ouais, là je travaille avec un truc. On va peut-être présenter quelque chose en janvier. Voilà.
Avec un truc.
ouais, j'espère que ça c'est prometteur, quoi. Enfin, okay. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'était un loisir un peu sataniste, comme le jeu vidéo l'est aujourd'hui. Et ça devient cool, bah, parce que simplement ça vieillit un peu. Voilà.
T'as mentionné très rapidement la méditation.
Ouais.
Je sens dans ton récit là qu'il y a une forme de travail sur toi.
Non, alors la méditation, c'est venu. Alors un jour, j'ai fait une séance de dédicace hyper déprimante dans le Perche. Et c'était vraiment les dédicaces. On voulait écrire des livres et puis vous rêvez du moment où vous serez à la FNAC et vous dédicacerez le livre. Mais en fait, en vrai, parfois, vous allez dans une après-midi dans une librairie, il y a trois personnes qui viennent. C'est vraiment psychologiquement très usant parce que vous perdez du temps, vous voyez très peu de gens, vous demandez si vous valez quelque chose. Donc j'avais vécu cet instant-là.
En même
vraiment...
temps, je pense que ça forme, parce que je l'ai fait aussi, je me suis retrouvé dans des trucs fous, vraiment, mais ça forme un peu le... ça forme le caractère, tu vois.
Ouais, ça met les choses en place.
Très formateur.
Voilà. Et donc, je vis ce moment-là, je me dispute avec ma meuf à distance, en plus, j'étais vraiment désespéré. Je rentre dans le train. Et là, il y a une femme à côté de moi, et cette femme me dit, j'ai l'impression que ça va pas. Alors j'ai dit, non, j'ai passé une mauvaise journée. Elle me dit, je suis psychologue en gestion des problèmes, dites-moi votre problème. Et donc, je suis bien tombé. Et elle m'a dit, vous devriez méditer. Du coup, je suis plongé dans la méditation. Et la méditation, alors, je suis pas un bon élève de la méditation, parce que la méditation, il y a deux règles à savoir si vous vous mettez à la méditation demain. C'est, il faut le faire tous les jours. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que si vous arrêtez, ça ne marche pas. Ce n'est pas un médicament qu'on prend et tout d'un coup, on va mieux. Donc, il faut le prendre tous les jours et ça ne marche pas tout de suite. Ça marche au bout d'une semaine, on commence juste à avoir les effets. Mais après, quand on est dans le mood et qu'on fait ça régulièrement, on est vraiment bien. Effectivement, la méditation, quand je sens qu'il y a une période de ma vie qui va pas aller, je commence une semaine, deux semaines, trois semaines et après, ça va très, très bien. Voilà. C'est vraiment un truc... on va dire, ça a l'air d'être... Enfin, j'ai peur d'être un peu new age, tout ça, mais non, c'est assez, comment dire, c'est reconnu par la médecine, on va dire. Donc, il y a des effets, c'est apaisant, il n'y a pas de phénomène d'addiction parce que c'est un vrai travail fatigant. Et en plus, dans le pire des cas, vous passez 10 minutes dans le silence à bien respirer et ça fait du bien, voilà. Mais je sais que toi, tu aimes beaucoup, ça te fait beaucoup de bien, et moi, effectivement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et je pense que ça nous apaise, tu vois, ça. Enfin, on gagne des niveaux et à un moment on est bien. Voilà.
On gagne des niveaux.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que au début, tu sais, mais vraiment, moi, je sais que si j'arrête une semaine et que je remets à méditer, sur 15 minutes de méditation, j'arrive vraiment à faire que 3 minutes. Parce qu'en fait, t'arrêtes pas de penser à plein de trucs, tu te dis pourquoi je le fais, je perds du temps. Hein, et puis à un moment, au bout de 3 minutes, tu te sens bien. Puis hop, c'est déjà fini. Voilà. Mais. Ouais, et à chaque fois, c'est un peu comme écrire une page, tu vois, tu commences, t'as la page blanche, et les 10 premières lignes, elles sont pénibles, tu vois, et après, t'es dedans, ça va tout seul. Mais je recommande la méditation. Si vous allez pas bien, ça peut pas vous faire de mal. Et ça peut peut-être vous faire du bien.
Ouais, parce que, comme tu dis, au pire, tu passes juste un moment avec toi-même. Alors, il y a des gens pour qui, je pense, le vrai drame, c'est que c'est compliqué de passer un moment tête à tête avec eux-mêmes. Moi, il y a un truc qui m'a toujours plu dans la méditation, c'est que t'as pas... C'est un truc que j'ai compris assez vite, c'est que il y a pas lieu de performance. Tu vois, y a pas à réussir ou il y a pas à rater. Et c'est l'un des rares trucs dans ma vie où je me dis, ok, en fait, je vais juste vivre le truc. Et en fait, le fait de se mettre dans cette position de juste vivre le moment et le laisser passer et en fait en profiter, moi, ça m'a ouvert des perspectives que je n'avais pas vraiment.
Ouais, mais Christophe André, qui est un peu le gourou de la méditation, il le dit. Quand vous commencez à lutter, c'est-à-dire que quand vous êtes dans l'échec de la méditation, en fait, vous êtes dans l'exercice. C'est justement le fait d'échouer et de constater que vous êtes en train d'échouer, que vous êtes en train de réussir. Et voilà, ça fait du bien. Je pense que voilà, je vieillis moins aussi parce que je médite.
Ah, tu penses ?
Ouais, je pense que... Enfin, en plus, j'ai besoin de moins dormir, tu vois, c'est vraiment... Et il y a ce côté aussi, tu as dit, c'est difficile de se retrouver avec soi-même parce qu'on se dit, bah, effectivement... Quand on rumine sur ce qu'on est, ouais, on pense à nos échecs, à d'affreuses choses. Mais non, la méditation, en fait, elle nous oblige à nous... il y a un guide, hein, ça ne se fait pas tout seul. Mais votre guide, il va vous demander de vous concentrer sur votre corps, sur votre respiration et sans jugement. Et donc, du coup, c'est juste quelque chose d'assez physique, comme on ferait de la course, quoi. Et je pense que la prière... les gens priaient et ils sentaient bien en priant Dieu parce qu'en fait c'était une sorte de méditation avant l'heure, quoi. Voilà.
Si t'avais trois conseils à donner, trois conseils de vie à donner aux auditrices et aux auditeurs de l'histoire du succès.
Alors je dirais la première qui est très importante, c'est tout dans la vie, tout est une question de perspective. Alors c'est pas, c'est à dire que quand vous avez vu une situation, il y a toujours il y a toujours un angle sous lequel vous pouvez la voir, et cet angle vous est profitable. Alors, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que vous échouez un examen, par exemple. Vous échouez un examen scolaire, et vous... Alors, l'idée, c'est pas de se dire, ah, il y a des gens, ils ont le cancer, tu vois. Donc, je suis bien loti, ça, c'est pas très intéressant. Mais plutôt, c'est de se dire, cet événement est affreux dans ma vie, et comment je vais pouvoir en faire un atout, tu vois. Comment... Et c'est compliqué, j'ai même pas la solution. Mais on se pose, on se dit, on se calme, il y a toujours une façon qui va me permettre de m'en sortir mieux que si tout s'était bien passé. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que il faut faire attention. Enfin, c'est bien d'avoir un rêve, de dire, moi, ma situation rêvée, c'est d'avoir une petite maison au bord de la mer et quelqu'un qui m'aime et un chien, par exemple. Vous mettez ça en tête et vous y pensez tout le temps. Et je trouve que c'est une bonne méthode parce que, en fait, quand vous faites ça, toute votre vie, vous allez faire des micro-choix qui vont vous amener à cette situation. Et à un moment, vous allez y être, tu vois. Et même vous allez être déçu, c'est-à-dire vous allez dire, ah bon, je l'ai déjà, ou c'est que ça, tu vois. Donc, choisissez bien votre rêve aussi. Mais en fait, en vrai, cette idée de j'ai un objectif qui peut être fou. Je veux devenir Lady Gaga à un moment. Je crois qu'elle était au collège et elle s'est dit, moi, je vais être star internationale, il n'y a pas moyen, tu vois. Et donc, effectivement, elle a fait d'immenses sacrifices et il y a eu plein de choses qui se sont alignées. Mais effectivement, ne pas se laisser porter par la vie et de se dire, c'est pas désagréable hein, de dire bon, j'ai confiance en ma bonne étoile. En fait, si on matérialise quelque chose qui nous rend heureux, un objectif, et qu'on se dit ça, c'est vraiment ma définition du bonheur et ça, c'est comme ça que je serai heureux. Je pense que c'est en faisant des voilà, on y arrivera. Et la troisième chose, dernier conseil, n'hésitez pas à transgresser les choses évidentes de la société. Notamment ce que vous disent vos parents. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils m'ont toujours dit « achète un appartement, mais achète. Pourquoi tu n'achètes pas? Je ne comprends pas. J'ai jamais acheté. Trouve un travail, un CDI. Mais trouve un CDI. Voilà. Travaille, c'est bien, il faut se lever tôt le matin. » Et ça, c'est des... Enfin, je veux dire, c'est leur vie, c'est leur rêve, leur vision du monde, c'est pas la vôtre. Voilà. La vôtre, bah, va falloir la trouver. Et peut-être, c'est d'acheter la vôtre. Mais... méfiez-vous, c'est-à-dire que quand tout le monde, notamment les banques, vous disent acheter un appartement, il y a peut-être un piège. Ces gens-là, ils ont plus leur intérêt à eux que vous, donc que le vôtre. Donc, essayez de comprendre les intérêts des uns et des autres et le vôtre et de prendre les bonnes décisions. Voilà. Ne pensez pas que ça va de soi, voilà, que la vie est un tunnel dans lequel vous faites des études, ensuite vous avez un boulot et ensuite vous allez à la retraite parce que le temps que vous soyez à la retraite, ça se trouve, il n'y aura plus de retraite. Voilà. Donc, non, mais malheureusement, il faut le dire. Hein.
Je pense qu'il faut partir du principe aujourd'hui que si vous comptez sur votre retraite, et que vous, faut pas trop. Quoi.
Voilà, c'est ça, entre autres. Donc,
c'est compliqué.
Je dis pas que c'est affreux, voilà, mais au contraire, c'est une fois de plus, si on prend la première règle, la règle de la perspective, dites-vous, voilà, moi, je vais tracer ma voie et je vais avoir des échecs, ça va être dur, mais quand j'aurai réussi, je serai bien.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Fibre, je suis content de te retrouver.
Oui.
Je pense qu'on a fait cet épisode il y a 6 mois. Enfin, on a enregistré la première partie il y a 6 mois.
Ouais, tant de choses se sont passées.
Et bah oui, déjà, on est resté scotché chez soi.
Voilà, c'est vrai.
Toi, t'es resté scotché dans ta province, comme tu dis.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'était plus simple quand même parce que il y avait moins d'atmosphère tendue qu'il y avait à Paris. J'avais 1 km de balade, mais 1 km en campagne, quoi. Donc, je me suis jamais fait contrôler quand je me suis baladé dehors.
Oui.
Donc, c'était sympa. Voilà.
Et je sais pas donc, si tu te souviens, mais tu parles énormément de télétravail dans le premier épisode qu'on a fait. Et bah, tu étais un peu un visionnaire, quoi.
Voilà, on a tous été obligés de télétravailler. Et surtout, bizarrement, j'ai dû faire du stream à distance. Alors qu'avant, je faisais du stream en studio. C'était la seule raison pour laquelle je venais. Et l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est Webedia, elle a mis en place des restrictions qui aujourd'hui encore s'appliquent. On ne peut pas rentrer dans les studios. Et on s'est organisé, il y a eu des régies qui se sont mises à distance. Ça s'est fait et ça marche plutôt bien, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des... pas au niveau du travail qu'on a fait nous, mais au niveau de la réception des auditeurs et des spectateurs, ils n'ont pas fait la différence. Ils ont complètement compris que ça devait se faire comme ça et ils l'ont accepté, ça se passe très très bien.
Mais donc ça t'ouvre des perspectives folles, non ?
Alors, Paris me manquait beaucoup. Là, je reviens à Paris pour la première fois depuis 3 mois.
Okay.
J'avais oublié quand même la violence de Paris. C'est vraiment incroyable. Les gens sont très tendus, tout ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont dehors. Enfin, c'est très dense, c'est vraiment un autre monde. Voilà. Et je suis quand même... C'est quand même bien de venir à Paris de temps en temps. C'est quand même agréable, voilà. Il y a de tout à Paris, voilà. C'est très concentré. Il y a de tout. C'est-à-dire, on peut manger n'importe quelle nourriture, on peut rencontrer n'importe quel type de personne. Et là, je sors d'un rendez-vous éditeur, par exemple, parce que j'ai concentré tous mes rendez-vous aujourd'hui. Et il y a un éditeur qui m'a dit, moi, parfois, j'ai ce réflexe parisien de dire à quelqu'un, oh, c'est bien ce que t'as fait. Viens, on se prend un café. Mmh. Et la personne me dit, ah. Mais je suis à Bordeaux, donc on peut se voir quand, il faut que je demande une autorisation spéciale. Et avec le Covid, c'est devenu un petit peu compliqué ce type de choses.
Ouais.
Voilà.
Mais ils pouvaient faire un zoom, là.
Oui, on peut toujours faire un zoom, mais comme je l'avais dit, la plupart des gens veulent quand même une rencontre en personne. Voilà.
Et tu te souviens de tout ce qu'on s'est raconté il y a 6 mois ?
Pas trop.
Mais, parce que tu as parlé de ça aussi.
Mais j'ai toujours la même chose en tout cas, donc je pense que c'est...
Putain, je pensais que tu me donnais des exclus et tout, je suis dégoûté.
Non.
Je suis choqué, déçu. L'autre truc que t'as lancé entre temps et qui fait que je pouvais pas sortir cet épisode d'Histoire de succès sans avoir un débrief de toi, c'est qu'en fait t'as lancé un crowdfunding avec Game of Thrones, dont on parle aussi dans la première partie, qui a ton cœur.
Ouais, tout à fait. Donc on a fait. Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est que l'émission, comme je l'ai dit, elle coûtait cher. Notre premier entretien. Et une façon de réduire les coûts, c'est de me payer moins. Mais en contrepartie, j'avais négocié dès le départ que je conservais les droits. C'est-à-dire que, en gros, demain, il y a un jeu vidéo sur cet univers, je le fais. Et effectivement, étant donné qu'on signait pour un pilote d'une émission qui allait peut-être être cutée au bout de 2 épisodes, ils ont dit « why not ?» Donc moi, j'ai quand même gardé précieusement les droits. Et elle a marché, donc j'ai cette chance-là. Et après, effectivement, on a au bout de 3 ans d'émission, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on va sortir le livre qui compile cette aventure si vous voulez la jouer chez vous. Et il faut voir que le produit, il est bizarre d'un point de vue éditorial. Je m'adresse aux gens qui veulent faire qui sont dans le métier de l'édition. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme si je vous vendais un film que vous avez déjà vu et que vous pourriez revoir gratuitement sur YouTube tout le temps. Mais là, je vous le vends. Et je vous le vends même très très cher parce que, en fait, on a fait un Ulule qui a, je vous dis le montant global, qui est plus de 350 000 euros sur 2200 pledges. Donc il y a des gens qui ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais une règle principale dans le crowdfunding, qui fait d'ailleurs que le crowdfunding que vous avez lancé a fonctionné aussi, c'est que les gens, c'est surtout un acte d'amour. C'est-à-dire, si vous faites un produit dans lequel il y a beaucoup d'amour, beaucoup de goodwill, beaucoup de choses, de karma qui est positif, où les gens sentent que vous donnez beaucoup, et bien ils veulent vous donner un retour. Ils veulent créer un lien par le financement. Et donc, ça a été non seulement ça a été un carton, mais en plus, on a battu beaucoup de records. C'est-à-dire qu'on a fait 50 000 euros en une minute, on a fait 100 000 euros en une heure.
50 000 euros en une minute.
En une minute, il y a eu le président de Ulule qui nous a appelé là. Et on a fait 100 000 euros donc, le premier soir. Et après, bon, comme tu le sais, il y a un palier, ça remonte à la fin. Donc c'était bien. Et je pense qu'on fait tout aujourd'hui pour livrer en temps et heure. Il y avait aussi cette idée de. On allait donner un produit qu'ils avaient déjà vu et qui existait. C'est-à-dire, toujours, il y a cette incertitude dans le crowdfunding qui est de dire, est-ce que je serai livré un jour ? Il y a eu parfois des gens qui se font arnaquer. Je touche du bois, j'espère que les gens qui ont donné recevront bien le truc. Mais l'idée, c'est que j'ai déjà écrit l'histoire. Et donc, là, elle est réécrite encore mieux par quelqu'un. Il y a des illustrations, tout ça. Mais dans le pire des cas, ils ont mon histoire. Donc, voilà.
OK. Ce qui est intéressant, c'est le fait que tu gardes tes droits.
Ouais.
T'en as fait un truc de négo en fait, qui finit par être le truc sans doute le plus précieux pour un auteur en fait, d'être capable de garder ses droits.
Alors, c'est un juriste dirait intrinsèquement quand tu produis une œuvre. Je m'adresse aux personnes qui écoutent ce podcast, qui sont des créatifs, la loi française te protège. C'est-à-dire, une œuvre, elle t'appartient toujours quoi qu'il arrive. Après, tu peux céder ces droits d'exploitation d'une façon ou d'une autre. Et aussi, c'est compliqué quand tu es face à une grosse société. Si demain, tu travailles chez TF1 et que tu dis « Ah, vous savez quoi, je vais raconter Olivier Tom et ça va être drôle. » Et en fait, tu crées un truc qui cartonne de ouf. Va te battre contre les avocats de TF1. C'est compliqué, donc il vaut mieux assurer quand même ses droits de façon claire. Mais non seulement, oui, c'est une négo. Et là, j'ai un jeu de rôle qui se passe au Figaro en ce moment, qui marche bien aussi. Et ils m'ont dit, tu veux te payer combien ? J'ai dit, bah, si vous me donnez les droits, tant. Et si vous voulez garder les droits, tant. Les deux me vont, parce que si demain je refais encore un Ulule, mais derrière, qui a la puissance de communication du Figaro, c'est bien aussi, tu vois. Donc, cela dit, là où j'en suis, le Figaro est pas ultra emballé par le jeu de rôle, donc je suis pas sûr qu'en septembre on revienne. Donc voilà. Ah, malgré le succès du crowdfunding, qui a quand même changé beaucoup de choses à l'émission, ça reste une émission qui coûte cher, qui rapporte pas beaucoup, et elle est toujours en danger. Mais aujourd'hui, j'ai fait un crowdfunding qui est le premier jeu de rôle indé français ever en termes de financement, plus le meilleur actual play. Quoi que je fasse maintenant, ce sera un peu moins bien. Donc voilà.
Ouais, je comprends. Mais en fait, mais pour moi, après cette histoire de stream aussi, ce que vous avez expérimenté là pendant le confinement, ça vous donne limite la possibilité de pouvoir le faire en indépendant, ça ?
Ah, alors ça, c'est une bonne question. On a commencé pendant le stream, on a expérimenté. Donc pour être plus précis, en fait, c'était une double expérimentation, c'est-à-dire que nous, on a créé une chaîne sur laquelle on a streamé.
Donc qualité, hein, voilà. Là pour le coup.
Mais secrètement, le stream, qui voulait pas quand même nous laisser voir partir, il a dit « Vous inquiétez pas, on vous host ». Donc ils avaient quand même un lien. Et je pense que on est mieux au stream. C'est bien d'avoir des professionnels avec des studios, avec des gens formés et avec aussi une régie commerciale derrière, parce que tu en sais quelque chose. Il faut, comment dire, c'est pas mal de sponsoriser, de commercialiser des choses, parce que déjà ça les fait vivre, mais surtout ça donne vraiment une direction. C'est-à-dire que parfois tu peux te lever le matin et dire « Ah, vous savez quoi, le jeu de rôle, j'en ai pas envie aujourd'hui ». Mais si effectivement tu as 12 commerciaux qui t'ont vendu une OPSP, tu es obligé de le faire et tu vas le faire, et c'est bien pour toi, et c'est bien aussi pour ton audience qui est content d'avoir ton émission, même si tu as un coup de mou. Donc moi je suis content, enfin, comme je l'ai dit, par loyauté et par effet structurant, je vais rester avec Webedia le stream le plus longtemps possible. Mm-hmm. Puis si un jour ils veulent plus de nous, évidemment, on prendra notre propre chaîne.
Voilà. Oui, c'est ça. Et surtout, vous avez, enfin, vu la capacité de financement de votre communauté, là, on peut se dire que dans 6 mois, 1 an, ils seraient prêts à vous financer un Patreon ou
alors,
un
oui
truc
non.
du style, non ?
Alors, Game of Thrones Magic, tel qu'on l'a fait, donc un jeu de rôle qui se passe dans un monde fantasy, il a beaucoup de succès. Mais d'autres n'ont pas eu ce succès-là. C'est-à-dire que le produit est bon. C'est un peu pour prendre... comment dire ? C'est un peu comme George Lucas, il a fait... j'essaie de trouver un truc nul qu'il a fait, George Lucas, mais en gros, il a fait Star Wars, qui a très bien marché, et à côté, il a fait Willow, et c'est un peu moins marché. Il n'y a pas tout l'univers étendu de Willow, même si les gens aiment bien. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire le produit, il a bien marché. Et je suis pas certain, enfin, j'ai lancé d'autres jeux de rôle que les gens aiment bien. Les aficionados, ils disent « Ah, ils retrouvent l'équipe, ils sont contents ». Mais en termes d'audience, on fait 2 fois moins.
Ok.
Voilà. Tant que c'est quand c'est pas la Dream Team sur le jeu de rôle Dream Histoire, ça marche moins bien. Donc voilà, on s'y accroche pour le moment. Ça va avoir une fin. Et là, concrètement, on essaye. Je travaille avec la régie commerciale pour faire du jeu de rôle commercial. C'est-à-dire que en fait, s'il n'y avait pas eu le Covid, il y aurait eu une OPSP pour un jeu vidéo le 22 mars. Dans lequel la société éditrice de jeux vidéo, ben, elle sort un jeu, on va dire Skyrim, et ben, je fais un jeu de rôle dans l'univers de Skyrim. Moi, ça m'intéresse parce que ça permet d'avoir une autre façon de faire de la publicité.
Ouais.
Et la publicité, c'est un drive exceptionnel. Et au Figaro aussi, on voulait faire un jeu de rôle sur les municipales de Paris, voilà, que j'ai écrit, et qui ne pourra pas se faire parce qu'il y a un problème de studio et de déconfinement. Mais là encore, c'était intéressant de voir le jeu de rôle comme un outil d'analyse politique. Donc, si demain, par exemple, en interne, vous voulez...
T'en parles dans la première interview, voilà. D'utiliser le jeu de rôle comme un peu un moyen de vulgariser
voilà,
des
ça.
Sujets politiques. Quoi.
C'est ça. Non, mais par exemple, effectivement, vous êtes J.K. Rowling, enfin vous êtes face à J.K. Rowling qui a fait son tweet. Expliquez-lui pourquoi il est problématique. Et il y a quelqu'un qui joue J.K. Rowling, qui reste fermé quand ça se va. Donc, et on fait un jeu de rôle qui dure, je sais pas, 10 minutes. Et en fait, on comprend par le dialogue qu'est-ce qui se passe. Voilà.
Mais tu pourrais limite faire ça dans des boîtes.
Ouais, mais alors.
En tant que formateur.
On nous avait proposé à un moment de faire ça pour un board d'une entreprise de cosmétiques avec donc mes joueurs. C'était de dire. Réunion de crise, par exemple, on a découvert que l'entreprise avait collaboré avec les nazis il y a 40 ans. Voilà, l'info sort demain. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est hyper intéressant parce que j'ai posé la question et quand on l'a fait, un communicant qui a dit pas de problème, on assume, on le fait, on va expliquer. On était, enfin moi personnellement, j'étais pas là à l'époque. Il y avait un contexte, on est prêt à tout assumer, à réparer, à affronter ce qu'il faut, voilà. Et ils ont trouvé une solution, enfin c'est bien parce qu'ils se l'ont posé, quoi, la question. C'était un peu délirant, mais c'est intéressant de quand on a un board d'entreprise de vivre ce type de choses, et en plus c'est amusant, voilà.
Qu'est-ce que tu tires comme leçon là de toute cette crise du Covid de toi en tant qu'auteur? Quand on voit un peu le milieu de la culture, à quel point il a pris un coup sur la tête là.
Ouais, la culture. En fait, il y a un truc moi qui m'a vraiment intéressé, c'est que la télévision, c'était le média dominant, et elle a pris hyper de haut tous les podcasts, le stream, YouTube. C'est quoi les YouTubers, tu vois? Alors qu'un mec comme Cyprien, il a plus de followers que je sais pas que d'habitants qui habitent dans la ville de Paris, tu vois? Et ils ont pris vachement de haut. Et pendant le confinement, les émissions qui cartonnaient. Sur M6, je pense à l'émission de Cyril Lignac, ces émissions format YouTube. Et maintenant, même plein de petits formats France 2 reprennent les codes de Norman il y a 5-6 ans. Et alors, il n'y a pas une mea culpa du tout. C'est juste qu'ils vont vers là où ça marche. Voilà. Et ça, mais c'est bien parce que je pense que ça a précipité les choses. Et ben ça va. Il y a des choses, il y a des mondes qui vont se rejoindre parce que il y a aussi un. La culture, je sais que je parle beaucoup d'argent, mais la culture, elle a besoin d'argent. Et aujourd'hui, il y a la télé, c'est un puits sans fond. Le cinéma, c'est un puits sans fond, le cinéma français, dans lequel on met de l'argent de nos impôts. Et c'est pas forcément là que se retrouvent la jeunesse et les formats créatifs innovants. Voilà. Et si effectivement, ils se tournent vers, je sais pas, le stream, YouTube, et à faire des choses plus sympathiques et plus en raccord avec ce que veulent leur audience, ce sera fantastique. Voilà.
Ok, cool. Je vais renvoyer les gens aussi vers l'épisode de Game of Thrones qu'on va enregistrer tout à l'heure là. Ouais. C'est que t'es venu pour ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de commencer à essaimer des hors-séries comme ça
Alors c'est pas n'importe où je le fais. Mademoiselle est très important pour moi parce que je fais un jeu de rôle sur la chaîne Le Stream, donc jeuxvideo.com, donc le forum du 15-18, donc essentiellement des garçons. Voilà. Donc je dis garçons parce que ce sont des hommes jeunes et un environnement où il n'y a que des hommes, c'est pas forcément bien. Et je dis pas que le jeu de rôle c'est un loisir uniquement masculin, même si les gens qui font de l'actual play comme je le fais, sur 9 hommes il y a une femme qui est maître de jeu, donc c'est quand même un jeu de rôle qui a dominante masculine, enfin c'est un domaine où il y a dominante masculine dans l'actual play. Et grâce à Mimi qui a parlé de nous, déjà on a eu un afflux, un appel d'air incroyable de femmes. Et après, en faisant le premier épisode avec vous, aussi, on a eu des femmes. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir des femmes? Parce que ça nous a permis d'avoir une communauté très très saine, qui s'est auto-régulée et qui est très bienveillante. Et ça nous a permis aussi d'avoir des critiques, mais des retours qui étaient toujours, qui nous orientaient dans la bonne direction. Ils anticipaient ce qu'on allait faire en disant « J'espère qu'il va se passer ça ». Et en fait, c'était chouette. Voilà. Ça nous a apporté aussi, ça nous a permis de faire un jeu de rôle de fantasy, donc une histoire comme Le Seigneur des Anneaux, par exemple, dans lequel il y a des choses qui intéressent tout le monde et qui sont pas forcément dans Le Seigneur des Anneaux comme des concours de cuisine. Alors, je dis pas que la cuisine c'est un truc de femme, mais moi je mets de la bouffe partout parce que j'adore manger. Mais effectivement, il y a des choses du quotidien qu'on retrouve dans Game of Thrones, des histoires de cœur, des tromperies aussi, j'adopte des animaux, il y a beaucoup de cuisine, il y a beaucoup de aussi, ils veulent jamais dire la vérité, ils sont toujours en train de comploter, parce que c'est des gredins, c'est jamais des gens avec des épées de feu qui vont terrasser des dragons, et il y a donc une humanité qui est un peu le reflet du public, parce qu'on est là pour plaire au public. Et Mademoiselle a rendu ce public plus sain, je pense. Voilà. Donc j'en suis très content. Et pour moi, c'est vraiment une super opportunité de faire un jeu de rôle avec vous. Voilà.
Bah c'est cool. Voilà. Merci beaucoup, Fibre.
Merci, Fabrice.
Pour tous les gens qui veulent te suivre, on va mettre. C'est quoi, t'es Twitter, toi?
Ouais, Twitter, @fibretigre, et ce sera parfait.
Voilà. Merci beaucoup.
Salut. Merci, au revoir.